Europe 1 Culture Média.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. On n'a jamais été aussi près de finir la semaine avec vous et avec Culture Média au menu. Tous les médias, toutes les formes de culture. Aujourd'hui, par exemple, avec Héloïse Wah, vous allez découvrir la série numéro 1 de Netflix en ce moment. Série qui est passée devant Emily in Paris. Et puis avec Laurie Choliwa, vous serez en duplex du Festival de la Comédie de l'Alpe d'Huez. Ce sera en deuxième heure. Auparavant, vous retrouvez Bruno Donnet pour ses télescopages, Jean-Luc Lemoine et sa session de rattrapage. Et d'abord, dans quelques instants, le journal des médias et les audiences télé d'hier soir avec Luce Bernard pour une édition vraiment particulière. Vous allez comprendre pourquoi. Et puis comme nous sommes vendredi, l'actualité, les coulisses du sport business avec Sacha Nokovic du journal L'Équipe, toujours en direct, même le vendredi, vers 9h40, ce sera juste après Bruno. Notre infomédia, L'Informé, c'est un nouveau site d'investigation économique avec notamment Xavier Niel comme investisseur. Il a été lancé en octobre dernier et ça marche. On reçoit son fondateur et directeur de la rédaction, Gilles Tanguy. Enfin, Raphaël Haroche, qu'on connaît comme chanteur sous son simple prénom Raphaël. Après un recueil de nouvelles très réussies, il a même remporté le prix Goncourt de la Nouvelle, il publie son premier roman, Avalanche, dans la prestigieuse collection Blanche de Gallimard, comme on dit. Vous savez quoi? Eh bien, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Luce Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de ce journal des médias un peu particulier.
Netflix change de patron, une victoire pour le journalisme d'investigation aussi, un journal du climat bientôt sur France Télévisions. Anne-Sophie Lapix sera-t-elle reconduite à la présentation du journal de 20h à la rentrée prochaine? Le directeur de l'information de France Télévisions a répondu à cette question auprès du Figaro et il a été catégorique. Donald Trump, lui, veut revenir sur Facebook et il a un nouvel argument. Et puis Tony Parker va enflammer Twitch au printemps.
Mais d'abord, on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3.
Lors de la télécommande ce matin encore, c'est TF1 en tête qui lançait sa nouvelle et dernière saison de Balthazar. 5 100 000 téléspectateurs en moyenne devant les deux premiers épisodes, 26,4% de part d'audience. A noter que le premier épisode était très fort, à plus de 6 millions, et puis ça a perdu 2 millions de téléspectateurs entre les deux. Le deuxième est à 4 millions et quelques. Deuxième, c'est France 2 qui proposait un nouveau numéro d'envoyé spécial qui signe d'ailleurs sa meilleure audience de la saison en nombre de téléspectateurs, 2 180 000 hier soir devant leur télé, 11,3% de part d'audience. Envoyé spécial qui proposait un numéro autour de la pénurie de médicaments, un autre reportage sur la gestion des ordures ménagères, sur les retraites aussi, et puis portrait du plus jeune milliardaire de France. Enfin, troisième, c'est France 3 avec le film Midway, 1 770 000 téléspectateurs, 9,5% de part d'audience. À noter que sur M6, c'est une petite déception pour la série événement Meurtre au Polonium, 1 210 000 téléspectateurs en moyenne sur les deux épisodes, seulement 6,3% de part d'audience.
Europe 1, le journal des médias.
Du changement à la tête de Netflix. Je ne m'attendais pas au tout doux. Son fondateur ne dirigera plus l'entreprise.
Oui, on l'a appris cette nuit. Reed Hastings quitte ses fonctions de co-directeur général. Alors, il reste tout de même dans l'entreprise, mais uniquement en tant que président exécutif. Lors de cette annonce, il a déclaré « Je suis tellement fier de nos 25 premières années et tellement enthousiaste pour les 25 prochaines ». Netflix va donc rester dirigé tout de même par deux PDG. Alors, il y a celui qui était déjà aux côtés de Reed Hastings, Ted Sarandos. Et puis, il y a le nouveau venu, c'est Greg Peters. Enfin, il était déjà un haut poste chez Netflix. Le départ de Reed Hastings intervient alors que Netflix annonce d'excellents résultats au dernier trimestre 2022. Ça aussi, on l'a su cette nuit. La plateforme a gagné 7 700 000 abonnés entre octobre et décembre dernier. C'est énorme. On peut l'expliquer, je pense, par plusieurs séries qui ont pu attirer de nombreux clients. Et puis en partie aussi, grâce au lancement de sa nouvelle offre, moins chère mais avec de la publicité. De quoi remonter la pente après un début d'année catastrophique. On en avait parlé dans ce journal. Netflix avait perdu des abonnés pour la première fois de son histoire début 2022, mais la plateforme donc semble aller mieux au vu de ses derniers résultats, bien meilleur que les projections du marché. En revanche, qui dit gain d'abonnés ne dit pas forcément finance. Au beau fixe, Netflix ne dégage pas encore beaucoup de bénéfices nets. Or, évidemment, c'est ce qui intéresse les actionnaires.
Dans l'actualité des médias également, le site d'investigation Reflet, avec un S, Info.info, autorisé à publier de nouveaux articles sur le groupe Altis, dirigé par Patrick Drahi.
Oui, alors c'est une décision de justice qui est tombée hier et c'est une victoire pour les journalistes du site, car en octobre dernier, une autre décision de justice avait interdit à Reflet de publier des articles sur le groupe Altis, des articles qui étaient rédigés à partir de données piratées qui étaient mises en ligne par des hackers sans lien avec les journalistes, avec le site d'information. Ce qu'il s'était passé, c'est qu'Altis avait alors saisi le tribunal de commerce suite à la publication de plusieurs articles donc qui évoquaient le train de vie du patron du groupe, Patrick Drahi, notamment ses déplacements en jet privé. Le tribunal n'avait alors pas exigé la suppression des articles, mais avait interdit à Reflet d'en publier d'autres. Une interdiction qui est donc désormais levée depuis hier par la Cour d'appel de Versailles, qui a souligné, je cite, la nécessité de préserver la liberté d'expression.
Actualité télé maintenant, un journal du climat bientôt sur France Télévisions.
Oui, d'ici le printemps, c'est ce qu'indique Alexandre Carra, le nouveau directeur de l'information du groupe public. Il a accordé sa première interview au Figaro. Fini donc la traditionnelle météo, place au journal du climat et de la météo, qui se veut donc une page d'information plus longue. Et je cite, avec l'ambition d'être ni moraliste ni anxiogène, juste informative. Car selon lui, le temps du traditionnel rendez-vous météo est révolu, il ne répond plus aux enjeux actuels.
Et dans cette même interview, Alexandre Carra a confirmé la présence d'Anne-Sophie Lapix au JT, aux commandes du JT de 20h l'an prochain.
Oui, la question lui a été posée car des rumeurs parlaient d'une potentielle éviction, mais le directeur de l'information de France Télévisions affirme que la journaliste restera bien titulaire du journal en septembre prochain, à moins qu'elle n'en décide autrement. Anne-Sophie Lapix s'était justement exprimée sur le sujet, elle aussi. C'était début décembre dans l'émission C'est médiatique sur France 5.
Vous serez toujours là l'année prochaine.
Je ne peux pas le dire parce que de toute façon, ça tourne. Hein.
On ne sait
pas. La roue tourne. La roue tourne, oui, c'est ça. Mais je ne sais pas si je serai là l'année prochaine. Mais moi, j'aime cet exercice et je le trouve passionnant. Et voilà, après, c'est pas moi qui décide.
On verra donc dans quelques mois ce qu'il en est vraiment. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura du changement du côté du plateau du 20h. Il va être modernisé et sa taille réduite.
C'est drôle que la taille soit réduite parce qu'il y a quelques années, c'était la course au gigantisme entre
2017,
les plateaux de TF1,
ils avaient, exactement,
de France 2 et d'M6.
Oui, mais on veut revenir peut-être au plus chaleureux, au plus proche des téléspectateurs.
On verra ça. Du côté des réseaux sociaux, Donald Trump sera-t-il bientôt de retour sur Facebook?
Il en a en tout cas fait la demande. Son avocat a envoyé une lettre au fondateur du réseau social, Mark Zuckerberg. Car rappelez-vous, Donald Trump est banni de Facebook depuis l'assaut du Capitole par ses partisans. C'était il y a 2 ans déjà. Mais depuis, une chose a changé.
In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for president of the United States.
Et il a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de 2024. Et donc, il joue là-dessus pour tenter d'obtenir le rétablissement de son compte Facebook. Dans cette lettre, son avocat dit vouloir promouvoir un véritable dialogue et non réduire un candidat à la présidentielle au silence. Donald Trump devrait être fixé dans les prochaines semaines. C'est ce qu'a promis en tout cas un porte-parole de Facebook.
Et on termine ce journal avec une actu qui concerne également Internet. Tony Parker va organiser un match de basket en live sur Twitch.
Vous savez, c'est cette plateforme qui permet de diffuser des vidéos en direct à une communauté. Eh bien, elle accueillera donc bientôt un match de basket avec des streamers, des stars d'Internet, des youtubeurs. Et Tony Parker, le champion, l'a lui-même annoncé bien sûr Twitch. Il était invité dans l'émission Popcorn animée par l'un des plus gros streamers de la plateforme, Domingo. Il a expliqué que plusieurs célébrités d'Internet allaient participer à ce match, dont Domingo. Les autres noms sont restés secrets.
C'est génial quand tu vois l'évolution de Twitch. Je pense que c'est la prochaine étape. Ouais. Un petit match en live, on va faire ça bien.
De quoi s'assurer une grosse audience, car ce genre d'événement attire les foules. Les 2 records historiques sur Twitch ont été pulvérisés grâce à des diffusions de compétitions sportives organisées justement avec des stars d'Internet, des streamers, des youtubeurs, le Grand Prix Explorer de Squeezie et puis le match de football Eleven All-Star. Chaque événement avait dépassé le 1 million de personnes connectées en même temps pour suivre le direct, le live. Ce match de basket lui aura lieu au printemps, mais la date exacte n'a pas encore été révélée.
Merci beaucoup Louise Bernard, on est vendredi, donc en temps normal je vous aurais dit à lundi, mais c'était votre dernier journal médias, car Louise, vous avez décidé de partir vers de nouveaux horizons.
Tout à fait, mais je voudrais juste remercier les auditrices et auditeurs pour leur fidélité, ou pas d'ailleurs, peut-être que tout le monde ne nous écoute pas tous les jours. En tout cas, merci, et puis surtout, avoir une pensée pour l'équipe que j'embrasse vraiment très fort, qui va me manquer sincèrement, et tous, chacun, j'ai pas le temps de tous les citer, mais voilà, pardon pour l'émotion. C'est un vrai sport d'équipe d'avoir cette émission à l'antenne tous les jours, 2 heures d'antenne comme ça. Et vous êtes peut-être en première ligne, c'est vous qui marquez les buts, Philippe, mais il y a des gens en coulisses qui font des passes décisives chaque jour. Et voilà, qu'ils le sachent, leur travail est précieux. Ils sont chacun essentiels à cette émission. J'ai une pensée aussi pour Nadia Milosevic, que je remercie, qui m'a embauchée et qui m'a confié ce journal. Voilà, c'était il y a 4 ans qu'elle m'a embauchée. Merci aussi à Stéphane Bosque. Voilà, ce journal des médias, j'ai essayé d'en faire un espace où on a parlé de tous les médias, que ce soit de la télé très populaire, des documentaires exigeants, des séries, des réseaux sociaux. Le feuilleton Elon Musk nous aura bien occupés. On a aussi beaucoup parlé de problématiques autour de la liberté de la presse, parce qu'elle est précieuse et fragile aussi. Je ne vous oublie pas, Philippe. Merci, merci pour la confiance. Merci pour ces 4 années, 3 ans et demi. Merci pour les conseils. Vous savez ce qui va me manquer ?
Dites.
Vos imitations de Philippe Gildas.
Pas d'émission avant l'émission.
Et pas de chute après la chute.
Et pas de larmes à l'antenne. Hein. Pas là, j'ai la petite larme à gorgonner. Vous étiez là, à moi de vous remercier. Vous étiez là depuis le début.
Ouais.
C'était la 758e émission. Vous vous rendez compte ce que ça fait ? 758 matins, on était à la machine à café. Ça fait quelque chose. Merci, merci beaucoup, Louise.
Merci à vous,
pour
merci
l'émission,
à tous.
Pour nous, pour tous. Et bonne route, bonne continuation. Et ça se trouve, on va vous réinviter.
Ah bah avec plaisir.
Bah, il faut faire des choses pour être invité.
Il faudrait que j'ai quelque chose à raconter.
La porte est ouverte. Culture Média, c'est ça. Merci encore.
Longue vie à Culture Média. Merci.
Merci. Dans un instant, l'info média du jour avec l'Informé, nouveau site d'info économique lancé fin octobre sous le patronage de Xavier Niel, son fondateur, directeur de la rédaction. Lui aussi est très attaché à la liberté de la presse. Vous allez comprendre pourquoi. Gilles Tanguy est notre invité. À tout de suite sur Europe 1. Je suis un peu ému. Merci encore, Louise.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
L'Informé, c'est ce nouveau site d'information économique qui a vu le jour fin octobre. Un nouveau venu dans la presse économique, uniquement en ligne et par abonnement. L'objectif, se distinguer des autres médias économiques. Oui, ils disent tout ça, mais eux publient des enquêtes exclusives sur l'actu économique, le monde des entreprises et leurs dirigeants. Il n'y a pas le flux, le continuum qu'il y a sur tous les autres sites. Alors forcément, avec une telle ambition, une question se pose, celle du financement et de l'indépendance éditoriale. Justement, avec nous, son fondateur, directeur de la rédaction, Gilles Tanguy, bonjour.
Bonjour.
On avait reçu hier à ce micro l'un de vos journalistes, Jamal Hani. On parlait de la faillite de Salto, la plateforme de SVOD qui regroupe, peut-être faudra-t-il parler à l'imparfait, qui regroupait TF1, M6 et France Télévisions. Et on était surpris par la qualité de son enquête, déçu en bien, comme disent les Suisses. Mmh. Et on a eu envie de mettre en avant votre média L'Informé, jeune site d'info que vous dirigez. Comment vous présenteriez ce média L'Informé ?
Je dirais que c'est un site d'investigation économique, libre, factuel et sans publicité, si on veut résumer ça en quelques mots seulement.
Sans publicité, c'est facile à comprendre. Il y a d'autres sites d'info. Les autres ne sont pas libres, ils ne sont pas factuels.
Il peut y en avoir, si effectivement, qui sont factuels. Nous, c'est notre credo. Nous, c'est l'enquête, le scoop. C'est-à-dire que il n'y a pas beaucoup de médias qui, je pense, ont pour objectif unique de faire du scoop. On a publié depuis notre lancement.
Oui, Mediapart. Qui est généraliste, mais Mediapart, pas seulement consacré aux affaires économiques, comme c'est votre cas.
Tout à fait. Mediapart est un super site qui est une grosse source d'inspiration pour nous, qui publie plein de scoops, mais ils ne font pas que ça. Ils font aussi des analyses, des reportages, etc. Mmh,
c'est vrai.
Nous, on a publié depuis notre lancement 240 scoops, 240 infos exclusives, alors plus ou moins importantes, qui intéressent plus ou moins le grand public, mais ce n'est que ça. Pas de blabla, 100% d'infos. On se concentre là-dessus, on met de côté plein d'autres bonnes infos intéressantes, mais c'est pas nos infos, donc on les sort pas. Nous, on veut que les gens en aient pour leur argent.
Et si un jour vous êtes à sec, ça vous est déjà arrivé de rien publier ?
Non, non.
C'est comme un maraîcher qui ferait que du frais.
Ouais, vraiment. Mais hier, vous avez reçu Jamal Hani, qui est un top journaliste que je suis ravi d'avoir pu recruter. Mais j'en ai 14 autres comme lui dans la rédaction. Je les ai recrutés l'été dernier.
Attends, on a tous fait de l'enquête. Moi, je dois avoir la carte de presse. J'ai la carte de presse depuis 85. Et parfois, on n'a rien. Parfois, on se lance dans une enquête et ça tombe comme des fruits mûrs au bout de 3 jours. Et parfois, on tourne en rond pendant un mois.
Bien sûr, mais je leur laisse du temps. Je leur laisse du temps. Il n'y a pas de pression pour sortir une info s'il n'y en a pas.
Donc, ma question, que faites-vous s'il n'y a pas d'info ? Ça n'est jamais arrivé,
ça n'est
qu'un
jamais
matin,
arrivé.
Il n'y a rien.
Non, non, parce que l'équipe est conséquente. 15 personnes et on a l'ambition de publier 4-5 news par jour. Si vous faites le calcul, ça fait 1 à 2 articles par semaine par journaliste. Comme ils sont très talentueux, on n'a aucun problème depuis le lancement.
Factuel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous ne donnez pas votre avis ?
Non, pas de parti pris, pas de connotation politique. Je mets au défi n'importe quel lecteur de nous donner une tendance politique. On veut être factuel, neutre, voilà, apolitique.
Il y a assez de gens qui donnent leur avis dans ce pays.
Exactement.
Vous dites également que la publicité, que la particularité de votre média, c'est d'être sans abonnement, ce qui est le cas, évidemment.
Sans pub,
Combien coûte l'abonnement ?
9,99 par mois ou 99,99 par an. On fait un peu de marketing aussi sur le prix. Mais surtout, on a une offre gratuite de 15 jours. C'est-à-dire que là, n'importe qui peut aller sur le site, s'abonner et nous tester pendant 15 jours sans bourse déliée. Et puis, il peut résilier si ça ne lui plaît pas. Nous, notre pari, et heureusement, il est réussi, je le vois dans nos chiffres, c'est que beaucoup qui se sont abonnés pour lire un seul article ou un deuxième article, ils restent au-delà de la période de gratuité.
Je vous ris parce que c'est le principe du dealer. D'abord, on donne et puis une fois qu'on est accro,
voilà,
ça devient payant.
C'est une super drogue, là, quand même. L'info, hein.
Exactement, exactement. Et on y est tous drogués à l'information. Vous avez vocation à vivre des abonnements, Gilles Tanguy, au sein de l'Informé. Il y a également les dons des lecteurs.
Non, pas pour l'instant. Non, les dons des lecteurs, on verra ça plus tard si on en a besoin. Oui, ça a pu être évoqué de ci, de là au début. Pour l'instant,
j'avais lu ça. C'est terminé. C'est terminé.
Mais on ne l'a pas commencé non plus. Non, c'est abonnement.
Alors, vous avez également des investisseurs et un investisseur célèbre, notamment. On focus sur lui, c'est Xavier Niel, le fondateur d'Iliad. Il finance déjà d'autres médias comme Le Monde ou Nice Matin. Comment vous l'avez convaincu de financer l'Informé?
Moi, j'ai eu cette idée de projet de site d'information économique indépendant, je dirais fin du printemps de l'an dernier, début de l'été. Je cherchais un investisseur, j'avais besoin d'argent. Je savais que je voulais une rédaction conséquente de 15 personnes. Forcément, ça coûte cher, une masse salariale comme ça. Donc, je cherchais un investisseur capable de réunir deux conditions, d'avoir les reins suffisamment solides pour m'accompagner sur la durée et puis de me garantir une liberté éditoriale totale. Il n'y en a pas beaucoup, des gens comme ça. Et donc, je suis allé proposer ce projet à Xavier Niel, que je connaissais de loin comme ça en tant que journaliste économique depuis 15 ans. Forcément, je l'avais interviewé. Je suis allé lui proposer et ça l'a plutôt emballé. Et donc, il a accepté mes conditions.
Les deux conditions. Alors, la première condition, c'était d'avoir les reins solides financièrement. Il a mis combien sur la table ?
On ne calcule pas comme ça. En fait, il me finance par rapport en compte courant. En fait, il me finance au fil de l'eau. Donc, il ne m'a pas donné comme ça 10 millions pour poursuivre. C'est pas comme ça qu'on a fonctionné.
Et alors maintenant, ce ne sont pas que des mots. L'indépendance, pour le prouver, dès vos premières publications, dès le lancement, vous avez enquêté sur lui, sur Xavier Niel, sur sa société Free, pour être plus précis. Dans l'enquête, vous révélez ceci, c'est votre titre. Free a été épinglé par le fisc pour avoir abusé de la TVA à taux réduit. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous lui avez demandé son accord avant de publier l'enquête? Est-ce que vous l'avez interviewé? Est-ce qu'il vous a fait des remarques? Comment ça s'est passé? Parce que quand la première enquête du média qu'on finance, et pas qu'un peu, si j'ose dire, se retourne contre vous, c'est rare.
Alors, moi, je n'avais pas d'inquiétude. Et puis, c'était le dit. De toute façon, je n'avais pas à me soucier de sa réaction sur les articles qu'on ferait sur lui ou son entourage. Donc, effectivement, on n'a pas hésité du tout. Ce n'est pas du tout lui qui nous a donné cette info, évidemment. Il n'est pas maso. C'est un de nos super enquêteurs.
Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous l'avez interviewé en préparant cette enquête?
En fait, comme tout bon journaliste, à chaque fois qu'on publie un article sur une entreprise ou quelqu'un,
on doit appeler le patron.
On appelle le service de presse, la communication, pour les faire réagir avant. Qu'est-ce que vous pensez de ces informations? Eh bien, pour Free, on a appelé le service de presse de Free en leur demandant, voilà, on a cette information, redressement fiscal, est-ce que vous avez un commentaire? Le service de presse de Free a répondu non. Et puis voilà, on a publié l'article et zéro réaction derrière.
Mais puisque vous le connaissez, que vous avez son 06, j'imagine, vous n'avez pas tenté de joindre
non,
Xavier
Niel? Depuis qu'on s'est lancé, je l'ai vu... au moment où je lui présentais mon projet, puis fin août, il m'a demandé des nouvelles et depuis rien.
Pour clore ce sujet, quelle réaction de lui ou de son entourage à la suite de la publication sur votre site de cet article?
Aucune.
Vous restez avec nous, Gilles Tanguy, on marque une courte pause. L'Informé, ce sont beaucoup, beaucoup d'infos dans tous les domaines. On va justement voir comment il balaye ça, évidemment, des enquêtes au sujet des médias, notamment une qui concerne l'animateur Arthur. Culture Média revient à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Gilles Tanguy, journaliste, il est le fondateur et le directeur de la rédaction de L'Informé. C'est un site particulier, site d'investigation économique qui ne publie que des scoops, pas des infos qu'on trouve ailleurs, nulle part ailleurs si j'ose dire. Le dernier article publié, c'était hier matin, une enquête en deux volets sur l'animateur et producteur Arthur. La première partie a été publiée hier. Le titre, Les anges de la télé-réalité, la très mauvaise affaire d'Arthur, raconter les faits.
Ouais. En deux mots, c'est une super enquête de Emmanuel Paquette qui révèle donc que Arthur, il avait racheté la grosse équipe qui est la boîte de prod qui produisait notamment
Les Anges de la télé-réalité
et d'autres émissions culturelles de ce type-là. Et il a en fait, il s'estime berné aujourd'hui.
Il a acheté 6,6 millions d'euros.
Voilà, c'est quand même un gros paquet. Et il s'estime berné aujourd'hui. Il attaque les fondateurs, ceux à qui il a racheté cette société. Il leur réclame 4,8 millions d'euros.
Il faut dire qu'après la vente, il y a eu de nombreux scandales qui ont éclaboussé la société. Il y a eu des rumeurs, des dénonciations vraies ou fausses à la justice de trancher d'agression sexuelle. Et Énergie 12, qui je crois... vers laquelle la société, la grosse équipe, écoulait 90% de sa production, a un peu fermé le robinet. Et donc,
Arthur attaque aussi Énergie 12. Ouais.
Voilà, la mariée était moins belle que ce qui était prévu. Comment votre journaliste Emmanuel Paquette a mené son enquête?
En fait, c'est un bon exemple. On a plusieurs styles d'enquêteurs dans l'équipe de 15 journalistes que j'ai. Il y en a qui font de l'enquête, je dirais, classique, avec leur énorme réseau de contacts, qui leur apportent des infos, etc. Et puis, on a aussi pas mal d'enquêtes qui sont faites à partir, on fouille dans les jugements, dans les comptes des sociétés, des trucs cachés à la 98e ligne de la page 102, où on découvre dans un petit alinéa qu'il y a une procédure en cours. Et au fin fond, en récoltant et en se faisant confirmer ça évidemment par des sources, Emmanuel suit les médias et les télécoms depuis 25 ans ou 30 ans, donc il connaît ça par cœur. Eh bien, on arrive à déterrer des affaires comme ça qui sont passionnantes. On a publié le premier volet vendredi, mais je vous encourage à tout le monde à vous abonner pour avoir le deuxième lundi, qui parlera d'Arthur, et puis d'un autre très grand nom de la télé en face aussi, toujours dans cette même affaire. Vous verrez, ce sera intéressant.
Ça sera qui le gros nom, sans dire l'affaire, qui sera le gros nom?
Non, je ne vous le dis pas, il faut s'abonner, mais lundi, il verra. Mais je vous appellerai avant, comme ça vous pourrez en parler.
D'accord. Cyril Hanouna?
Ça peut faire partie des personnes dont on va parler. Oui.
Parmi les enquêtes publiées, vos scoops, comme vous les nommez sur le site, il y a une enquête sur Magali Berda qui a été publiée. Il y a les chiffres secrets de l'Empire Squeezie, le youtubeur le plus suivi de France. Une enquête sur Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo. C'est très grand public. L'enquête sur Salto, dont on a parlé hier. Mais aussi, il y a par exemple le groupe Avisa Partner qui rachète la plateforme de formation Cyber AppSec Academy, ou le cabinet de conseil de la com lancé par un ancien de la société Tilder. C'est aussi très, très, très pointu.
Bah, ça illustre bien ce qu'on veut faire. On a des sujets grand public qui visent le grand public et qui nous permettent de récolter pas mal d'abonnés. Et voilà. Et puis on a aussi un deuxième type de cible, ce sont les niches professionnelles. On a des experts, des journalistes experts dans la grande distribution, dans les cabinets de conseil, dans l'énergie, dans les télécoms, dans les médias, dans la santé. Et avec ces experts-là, on veut se rendre incontournable, indispensable auprès des décideurs, des acteurs de ces secteurs et de ces branches-là.
Des décideurs, justement, je vais vous poser la question. Qui est votre lectorat potentiel? Vous allez me répondre tout le monde, mais qui visez-vous en premier et qui ont été les premiers abonnés?
Ben justement, ces deux cibles, on voit, il y a monsieur et madame tout le monde, je vais dire, le grand public, ben c'est les centaines de milliers de personnes qui regardent Cache Investigation, les émissions voilà, d'Élise Lucet sur l'économie ou Capital sur M6, qui lisent Mediapart, qui s'intéressent au scoop grand public, et puis aussi voilà, les professionnels de tel ou tel secteur qui veulent savoir ce qui se passe dans leur secteur, pour ne pas être bête.
Votre parcours, Gilles Tanguy, vous avez travaillé 4 ans à l'Expansion, 16 ans pour le magazine Capital. Vous lancez un nouveau média économique. Je comprends très bien la volonté de faire quelque chose de neuf, mais quelle volonté soi-même de devenir un chef d'entreprise, c'est-à-dire de regarder les courbes, les chiffres, les bilans?
Oh, c'est passionnant. J'avais déjà un peu anticipé ça. Je travaillais avant à Capital. Je dirigeais le site web où je regardais beaucoup déjà les chiffres d'audience. On était gratuit, donc je regardais surtout l'audience. Maintenant, je regarde plutôt le nombre d'abonnés. Mais c'est pareil, c'est passionnant de diriger cette équipe-là.
Je vais vous faire une confidence. Ouais. C'est un jour Serge Julie, le grand patron emblématique, iconique de Libération, qui m'avait dit ça. Il m'avait dit, moi, à Libé, je suis le patron de Libé, mais le journalisme, c'est 5 à 10% de mon métier. Quand t'es patron, tu t'occupes de tout, même la rue Bérangère, ça roule mal, la photocopieuse, les dates de congés, de vacances. Parfois, c'est pas très agréable d'être le patron.
Alors, c'est vrai qu'au lancement, ça m'a énormément bouffé.
On est d'accord, c'est toujours étonnant de voir un journaliste vouloir faire le chef.
Non, mais au lancement, j'ai passé beaucoup à créer un compte en banque, prendre un compte en banque, créer la société, faire beaucoup de paperasse. Heureusement, depuis, on s'est lancé. Et non, je consacre bien plus que 10% à l'éditorial, je dirais plutôt 50%. Et puis, je lis toutes les enquêtes, évidemment. Évidemment, avant parution, et je challenge les auteurs pour être sûr qu'on ait les infos exclusives.
Quand on dirige un journal, et quand on dirige un journal économique à plus forte raison, on dit toujours que ça va bien quand on lui demande comment sont les résultats et les premiers bilans. Donc, comment ça va bien? Quels sont vos résultats en termes d'abonnés? Est-ce que vous êtes dans les clous que vous étiez fixés vous-même?
Oui, on a conquis, je ne vais pas donner un chiffre parce qu'on n'a que 3 mois d'existence, franchement, je trouve ça un petit peu tôt, même pas 3 mois, on s'est lancé le 21
octobre. En général, vous savez comme moi, quand on ne donne pas de chiffre, c'est que c'est moyen.
Non, je préfère attendre qu'on ait utilisé tous les leviers. On n'a même pas encore lancé notre appli mobile, on n'a pas encore lancé notre offre entreprise.
Je veux juste vous dire, comme ça, Netflix donnait ses chiffres d'abonnés, Salto ne les a pas donnés.
Oui, mais ils ne les ont pas donnés au bout de 2 mois, Netflix, je pense.
Le Monde
Mediapart, ils donnent, Mediapart ne donne ses chiffres qu'une fois par an, le Canard enchaîné aussi.
C'est vrai.
Donc
aussi.
Laissez-nous quelques mois. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a conquis, séduit un nombre d'abonnés supérieur, enfin à 4 chiffres. Voilà, à 4 chiffres.
Quand serez-vous à l'équilibre? Parce que j'imagine que vous ne l'êtes pas encore.
Non, on est loin de l'être, vu la rédaction qu'on a.
Bien sûr.
Faudra plusieurs années. Ça va dépendre du nombre d'abonnés, tout simplement. Plus il y a de gens qui viendront chez nous, plus tôt on sera à l'équilibre. Donc je vous encourage tous à nous suivre pour qu'on le soit le plus tôt possible.
Et j'ironise un peu, mais il faut le rappeler, Mediapart a mis des années avant d'être à l'équilibre.
Exactement.
Évidemment, la presse, ça ne se fait pas comme ça.
C'est un parcours super long. C'est très dur de conquérir des abonnés. C'est encore plus dur de les garder, d'ailleurs.
Ça allait être ma question. Comment faites-vous pour conquérir des abonnés, pour vous faire référencer? Comment on arrive sur un marché qui est déjà très, très encombré et en plus qui a l'habitude, malheureusement, du gratuit?
Pas facile. Au début, on part de zéro. On a utilisé beaucoup les réseaux sociaux, Twitter notamment, pour se lancer. Twitter, c'est encore notre première source de recrutement, enfin de trafic. On attend d'être mieux référencé dans Google. On l'est, mais on remonte pas encore parce que l'algorithme de Google est ainsi fait qu'il faut une ancienneté très longue avant de remonter, même si on a de super infos. Donc ça mettra 6 mois, ça mettra 1 an. Là, on va lancer dans quelques jours nos premières vidéos sur les réseaux sociaux qui vont parler de nos enquêtes, les vulgariser. Et ça va nous permettre de nous faire connaître du plus grand nombre. Voilà, petit à petit, on met toutes les briques pour y arriver.
La limite, c'est quoi? Est-ce que vous fixez une limite? Est-ce que, par exemple, on peut vous voir arriver sur Twitch ou sur TikTok à faire des vidéos de 14 secondes?
Plus quand même, je pense, 14 secondes, c'est un peu court pour dire ce qu'on veut dire sur des enquêtes comme
ça. D'où ma question.
Non, mais on va faire des vidéos d'une minute sur les réseaux sociaux et puis des plus longues peut-être sur YouTube de 15-20 minutes. On va à la fois faire des enquêtes vidéo, des vulgarisations de nos enquêtes.
Merci beaucoup Gilles Tanguy. Je rappelle que vous êtes le fondateur et directeur de la rédaction de L'Informé. Pour s'abonner, on va sur l'informé.com, l'informé.fr.
L'informé.com, et il y a en haut à droite s'abonner. Et encore une fois, c'est 15 jours gratuits. Ça ne coûte rien de s'engager, de nous tester pendant 15 jours.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous en direct. Dans un instant, la chronique Sport Média du vendredi de Sacha Nokovic. Il va nous parler de la révolution à venir dans la diffusion du foot à la télé et de la suite du canular porno à la BBC. Oui, c'est du sport et on a retrouvé le coupable. On va retrouver également Bruno Donnet pour ses télescopages. A tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Nous sommes vendredi, donc nous sommes en compagnie de Sacha Nokovic pour sa chronique Sport Média hebdomadaire qui va arriver. Bonjour Sacha.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et comme nous sommes un jour ouvrable, nous sommes avec Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Et oui, Bruno, tous les jours, du lundi au vendredi en tout cas, vous observez ici le traitement de l'actualité par les médias. Mais le vendredi, vous nous en faites la synthèse. Et cette semaine, il vous a semblé que la couverture de l'information se cherchait, comment dire, des limites.
Oui, et s'il fallait résumer la tonalité de cette semaine d'actualité marquée, entre autres, par la réforme très contestée de l'âge du départ en retraite d'une seule formule, Philippe, ce serait probablement une question. Jusqu'où peut-on aller trop loin? Et le premier qui a allègrement franchi le mur du son, c'est Michel Sardou.
Rouler à 130 sur l'autoroute, franchement, ça m'emmerde.
Invité par BFM TV à donner son avis sur tout, mais aussi sur n'importe quoi, le chanteur nous a régalé de ses points de vue indispensables. On a ainsi pu mieux comprendre ce qu'il pensait de la sécurité routière.
C'est de la merde.
Des radars.
Ça ne sert à rien, c'est l'État qui prend du pognon et qui vous punit.
Mais également de la députée écologiste Sandrine Rousseau, dont le mari, qui n'avait rien demandé à personne, a tout de même ramassé une petite balle perdue.
Mais le mari de Sandrine Rousseau, le pauvre, franchement, faudrait pas faire une marche pour aider ce pauvre mec.
Alors, présente hier dans la manifestation parisienne contre la réforme des retraites, Sandrine Rousseau a répondu au chanteur via Twitter en posant en photo sous une banderole gigantesque sur laquelle était écrit « Sardou, ta gueule ».
Mais elle est con.
Alors, faut-il museler Michel Sardou? Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'à la question « jusqu'où peut-on aller trop loin ?», j'ai trouvé une réponse au moins aussi édifiante qu'inattendue. Où ça? Eh bien, dans un reportage aperçu dans le 20h de France 2. Car figurez-vous que le fabricant de yaourt Danone, devenu très chatouilleux sur la question sensible du greenwashing, vient tout juste de décider de prendre le taureau par les cornes.
Pour réduire le bilan carbone de ces yaourts faits au lait de vache, le géant de l'alimentation Danone a demandé aux éleveurs de trouver des solutions.
Danone a demandé aux éleveurs de bien vouloir diminuer la quantité de méthane que les vaches rejettent dans l'atmosphère en ruminant ou en flatulant. Alors, eh bien alors, je vous jure que tout ceci est vrai, une société vient de trouver la solution.
une entreprise britannique vient de mettre au point ce casque afin de recycler les rots des animaux.
Elle fait porter des casques aux vaches. Les images sont absolument dingues. Oui, des casques sur la tête pour recycler les rots. On ose imaginer la réaction de Michel Sardou.
Ah non, non. Je déteste ça.
Bon, sinon, il a neigé, Philippe, en plein mois de janvier.
La neige semble s'installer sur une partie de la France. Le centre et le nord-est sont les zones les plus touchées.
Les télés ont donc, comme d'habitude, dépêché leurs plus fins limiers sur place pour prendre la température et le pouls des populations autochtones. Mais ceux du 13h de TF1 ont été particulièrement bien reçus par ce monsieur qui trouve visiblement qu'en matière de limites, il faut parfois savoir ne pas dépasser les bornes.
Vous avez jamais vu de neige ?
En hiver, c'est normal ?
Oui, ici, c'est tout à fait normal. Bah oui.
Enfin, pour terminer, Philippe, et pour rester sur l'épineuse question du franchissement des limites, il faut encore que je vous dise un petit mot de la chaîne de télévision russe RT France. Vous savez que l'Union européenne lui a interdit d'émettre dans toute l'Europe le 27 février 2022. Toutefois, depuis cette date, depuis 11 mois donc, la chaîne de propagande russe continuait de diffuser ici, chez nous, en France. Deux enquêtes parues ces jours derniers dans le journal Libération et dans Le Monde ont raconté comment Russia Today parvenait à émettre depuis Boulogne-Billancourt et comment elle continuait à payer une centaine de salariés et des éditorialistes. J'y arrive aux propos toujours plus effrayants. Lundi, sur France 5, Patrick Cohen s'est ému lui aussi de la situation et il a fait entendre ce que le député du Rassemblement National Thierry Mariani avait tout récemment déclaré sur cette antenne.
L'Europe est une sorte de vieille alcoolique en état de manque permanent.
Voilà. Eh bien, depuis cette série de réactions médiatiques indignées, la situation a bougé, enfin. Eh oui, on l'a appris hier, le compte bancaire de la chaîne russe a été bloqué par la direction générale du Trésor en France. Russia Today ne peut donc plus payer ni ses salariés, ni ses prestataires et elle devrait donc fermer son antenne très prochainement. Il aura tout de même fallu attendre 11 mois et deux enquêtes journalistiques édifiantes pour que l'Europe et la France prennent des mesures et mettent enfin, il était temps, des bornes aux limites.
Mettre des bornes aux limites. Merci beaucoup Bruno Donnet, bon week-end, à lundi.
9h, 11h,
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
9h48 sur Europe, on retrouve Sacha Nokovic et sa chronique Sport Média. Et je vois, Sacha, que vous avez votre petit regard coquin ce matin.
Mais rien ne vous échappe, comme d'habitude, ça. Regard coquin, pourquoi ? Parce que Canular coquin à la télévision anglaise, c'était mardi soir. C'est devenu un feuilleton qui a choqué le royaume toute la semaine. Et ça y est, on a enfin retrouvé le coupable, je vous en parle dans un instant. Et puis, une légende du sport mondial qui joue avec les nerfs des médias sur l'arrêt ou non de sa carrière.
Et alors, je ne le savais pas, je le découvre en lisant le lancement. Pour commencer, grande nouvelle pour les fans de foot français, pour moi aussi, notamment de la Ligue 1, les conversations des arbitres vont peut-être enfin être diffusées en direct pendant les matchs.
Enfin, comme vous le dites, Philippe, et ça pourrait donner ça.
Regardez, regardez la trace.
C'est même pas moi. C'est même pas moi.
Ouais, on va regarder. De toute façon, si clairement je me suis trompé, ils vont intervenir et j'aurai aucun problème à changer la décision. D'accord ?
Là, on entend un arbitre qui parle à un joueur.
Exactement. C'est l'extrait d'un documentaire qui s'appelle « Dans la tête des hommes en noir ». D'ailleurs, c'est toujours dispo sur MyCanal si vous souhaitez le regarder. Mais c'est une séquence qui a été autorisée, validée, contrôlée par le corps arbitral avant sa diffusion. On rappelle qu'Amazon a aussi un programme qui s'appelle « Surécoute ». On en a déjà parlé dans ce studio sur Europe 1. Mais là aussi, c'est contrôlé. Mais cette fois, c'est la vraie évolution. Ça y est, la diffusion en direct. C'est en tout cas ce qui est ressorti hier d'une réunion de la Fédération française de football. C'est Eric Borghini, le président de la commission des arbitres, qui l'a confirmé à l'équipe. Il nous faut l'autorisation de la FIFA, mais on va monter un dossier pour y arriver. Comme au rugby, on est partisans d'une sonorisation de A à Z, micro ouvert du début jusqu'à la fin du match.
Et c'est vrai qu'en rugby, c'est absolument formidable. On entend tout depuis le canapé, on comprend tout, comme les joueurs et comme les arbitres savent écouter. C'est toujours respectueux et ça évite aussi les insultes.
Voilà,
et puis de savoir qu'on est entendu.
Exactement. Et puis c'est clair pour nous, téléspectateurs. Oui. Depuis le canapé, maintenant
on comprend la faute.
Tout. Voilà, on aura désormais en direct toutes les explications et puis on est sûr d'avoir aussi des séquences cultes. Forcément, il y a toujours beaucoup de mauvaise foi, vous savez, entre les joueurs et les arbitres.
Genre, je ne l'ai pas touché, il lui a pété les deux jambes.
Exactement, ça arrive tout le temps. Et puis surtout, par ricochet, ça on n'en a pas trop parlé, mais ce serait un coup de pouce incroyable pour les clubs de Ligue 1 dans la perspective du prochain contrat de droit télé. Les diffuseurs n'arrêtent pas de demander à la fédération, aux ligues de passer à la sonorisation des arbitres. En gros, OK pour payer plus cher, mais faites un effort sur la vraie révolution de la diffusion, qui est le son. Mais il va falloir aller vite pour que la FIFA donne son accord, car le prochain appel d'offres des droits de la Ligue 1, c'est programmé à l'automne prochain.
Et alors Sacha, il y a une autre nouveauté qui a été annoncée lors de cette réunion fédérale, toujours concernant les arbitres, mais pour l'ensemble des médias.
Oui, ça concerne cette fois l'après-match, avec le projet de faire venir systématiquement les arbitres en conférence de presse pour débriefer leur match à eux. La Fédé l'a aussi détaillé à l'équipe. Il faut leur donner une formation en média training pour gérer les problèmes graves. Mais il faut arrêter avec cette opacité. Les joueurs vont devant la presse, les coachs, les présidents aussi. Donc on va les former et ils vont parler.
Ouais, bah, s'ils font du media training, ils vont nous faire de la langue de bois. Il faut prendre les matchs un par un comme ils viennent. Et l'important, c'est les trois points. Il y aura ça pour les arbitres. Lui aussi a parlé cette semaine. Il s'appelle Tom Brady. C'est la star de la NFL, la Ligue de football américain. Son équipe Tampa Bay. Son équipe s'est fait éliminer de la course au titre. Mais cette star américaine de 45 ans joue avec les nerfs des médias américains au sujet de sa potentielle retraite.
Et oui, et si les médias du monde entier même attendent de connaître sa décision, c'est pas seulement parce que c'est une légende de la NFL et du foot américain, un palmarès de dingue, 7 Super Bowls remportés, le joueur le plus titré de son histoire, pas seulement à cause de ça. I'm sexy and I know it.
C'est pas lui qui chante.
Non, c'est pas lui qui chante, mais c'est lui qui est sexy.
D'accord.
Tom Brady, c'est l'un des sportifs les plus sexy de la planète, marié jusqu'à octobre dernier au top modèle, Gisele Bündchen. Et c'est vrai qu'il est très agaçant pour nous. Il est bon, il est beau, il parle bien, il a de l'humour. Bref, c'est insupportable pour nous. Mais ce qui joue, non, mais c'est vrai. Ce qui insupporte surtout les médias depuis
quelques jours. Je viens d'apprendre que j'étais moche, que je parlais mal et que j'avais pas d'humour. Donc, vous imaginez pas dans quel état vous me mettez.
Pour le week-end, je suis désolé, Philippe. Mais ce qui agace vraiment les médias, c'est qu'ils jouent avec leur nerf sur l'arrêt de sa carrière. Et ça date pas d'hier. Écoutez cette séquence, c'était il y a pile un an sur la chaîne France 24.
Tom Brady met donc fin aux rumeurs. La légende du foot américain annonce officiellement sa retraite après plus de 22 ans de carrière, 7 titres, 3 finales nationales. Le joueur de 44 ans va désormais pouvoir admirer le Super Bowl depuis les tribunes.
Donc l'an dernier, il avait déjà annoncé qu'il arrêtait.
Voilà. Avant de changer d'avis, quelques semaines après, là c'est pareil, vous allez attendre messieurs, peut-être, oui, on ne sait pas. Mais s'il décide de stopper, normalement ça devrait être la bonne, il a une grande chance ce Tom Brady. Il est beau, mais il a aussi un contrat télé mirifique déjà signé avec la chaîne américaine Fox Sports. 350 millions d'euros sur 10 ans pour commenter quelques matchs de NFL sur la chaîne. Ça fait 35 millions par an d'euros. C'est le consultant, ce sera le consultant le mieux payé de l'histoire et de la télé américaine. Et ça en ferait le deuxième plus gros contrat de l'histoire derrière celui de Philippe Vandel sur Europe 1.
Tu parles, 3 millions par mois. Pour finir, le moment le plus gênant de la semaine, c'était à la télévision britannique, pas n'importe laquelle.
Oui, la prestigieuse BBC. On est avant la diffusion du match de coupe Wolverhampton-Liverpool. L'ancien joueur, désormais animateur, Gary Lineker, présente la rencontre lorsque surgit d'un coup ce bruit étrange du plateau.
With an FA Cup winners only policy in the studio tonight.
Oui, oui, vous avez bien... Oui, c'est bien ça, vous avez bien entendu. C'est un extrait de film porno en plein direct sur la prestigieuse BBC. Véritable crise de lèse-majesté dans le royaume. Louise Bernard en avait parlé dans ce dans ce long JT.
Elle n'avait pas passé le son. Louise n'avait pas passé le son, vous le passez.
Oui,
vous,
je suis désolé. Il faut être transparent. Mais la chaîne publique a été obligée de présenter rapidement ses excuses et de lancer une enquête quand même sur ce canular. Enquête qui n'aura pas duré très longtemps. Pendant la soirée, le présentateur Lineker tweet rapidement une photo de l'objet du crime. C'est un vieux téléphone portable qui est scotché dans le studio et qui diffuse la sonnerie d'un téléphone, qui en l'occurrence un film porno.
C'est quelqu'un qui avait mis ce son-là en sonnerie de son téléphone.
Voilà, scotché et qui a téléphoné de loin. Alors, premier sujet, sort tendance sur Twitter ce soir-là en Angleterre. Le lendemain, le Sun, tabloïd le plus vendu du pays, en fait carrément sa une.
Voilà un grand journal. C'était ce qui est le plus important dans le pays, je pense. La grande presse.
Mais bon, s'en amusait certains. Un opérateur téléphonique, le plus puissant du royaume aussi, s'est amusé à raconter qu'il recevait énormément de demandes de ses clients pour savoir où trouver la fameuse sonnerie. Bref, tout le monde a fini par surfer dessus, mais... c'est très anglais, on imagine mal en France. Imaginez Laurent Luya avec cette sonnerie porno pendant les JO. Pas sûr que ça fasse la une du Parisien.
Tant mieux, on ne sait jamais. Quoique, on a fini par retrouver l'auteur du canular.
Oui, il s'est dénoncé lui-même et vous allez comprendre pourquoi. Il s'agit en fait d'un YouTuber anglais spécialisé dans le canular. Il a posté sur sa chaîne justement le moment où il s'introduit dans le studio pour scotcher le téléphone, puis le moment où il téléphone depuis chez lui pour faire sonner son téléphone et provoquer ce malaise.
C'était pas le téléphone de quelqu'un de l'équipe.
Non, c'était un YouTuber spécialisé qui a fait le buzz là-dessus. Petit malin. Alors, j'ai pas envie de donner son nom pour lui faire de la pub, mais c'est un spécialiste du genre. Il s'était déjà introduit sur la pelouse lors de la finale de la Ligue des Champions, la dernière, Real Liverpool. Il s'était fait passer pour un journaliste dans un premier temps, s'était déshabillé. revêtu d'une tenue du Real. Il avait fait la fête avec les joueurs sans problème. Et puis, il avait perturbé un match de rugby, de NFL, trois rencontres de cricket. Et pour l'instant, il ne s'est jamais fait prendre. Donc, on lui propose de venir lancer un canular dans la chronique Sport Média, s'il en a le courage, cet ami britannique.
Il sera bien, bien, bien reçu. Merci beaucoup, Sacha. On vous retrouve vendredi prochain. Et en attendant, on peut évidemment vous lire dans le journal L'Équipe. Culture Média continue, évidemment, sur Europe 1, 9h55 et des bananes, 45 secondes. Après les infos de 10h, notre invité, c'est le chanteur désormais écrivain, ou plutôt romancier, parce qu'il avait déjà écrit deux recueils de nouvelles. C'est Raphaël Haroche, ou Raphaël le chanteur. On parle de son premier roman Avalanche. Et puis dans Les Indispensables, Héloïse Goua va venir nous parler d'une série qui mélange les genres et qui est en tête en ce moment des visionnages sur Netflix. Et Laurie Choleva sera en direct avec nous depuis le Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. On va faire le point sur les films en compétition. Je n'oublie évidemment pas Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage. À tout de suite.